La guerre en Ukraine, tous les alliés occidentaux de l'Ukraine sont d'accord pour dire que le missile tombé sur la Pologne il y a deux jours était très probablement un missile de la défense antiaérienne ukrainienne, un missile russe. Message unanime, sauf que Volodymyr Zelensky a beaucoup de mal à accepter ces explications. Lui continue d'avoir un doute, un gros doute même.
Ce n'est pas la première fois qu'un missile ou des morceaux de missiles tombent sur d'autres pays. C'est déjà arrivé il y a quelques temps, notamment en Moldavie avec un missile russe. Je ne sais pas encore ce qu'il s'est passé exactement, mais ce que je sais, c'est que notre système de défense antiaérienne a tiré, car on se bat contre les missiles russes sur notre sol. Pour le moment, il faut être juste et ne rien affirmer tant que l'enquête n'est pas terminée. Mais selon notre armée qui a analysé les photos du cratère, on ne peut pas affirmer qu'il s'agisse d'un de nos missiles de défense antiaérienne.
Et pour préciser ce que vous venez d'entendre, communiqué du même président Zelensky, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le monde ne le sait pas, mais je suis sûr que c'était un missile russe, communiqué d'aujourd'hui. Je suis sûr que nous avons tiré depuis des systèmes de défense aérienne. Ulysse Gosset, il ne se range pas complètement, Volodymyr Zelensky, aux explications occidentales.
Non, mais il évolue doucement, je dirais.
Oui, doucement, mais très doucement.
Oui, mais l'important c'est que pour lui, c'est qu'il a envoyé en Pologne une équipe d'enquêteurs, des militaires, qui vont pouvoir aller voir le site et avoir leur propre vision de ce qui s'est passé. À une nuance près, c'est que la Pologne n'a pas dit oui à ce que l'Ukraine participe officiellement à l'enquête. Chacun veut garder ses informations et sa souveraineté, surtout quand il s'agit d'un dossier aussi sensible. Parce que les pièces du missile, elles sont très importantes pour décider véritablement qui est à l'origine du tir. Donc, les enquêteurs ukrainiens vont arriver en Pologne, ils vont pouvoir voir, ça donne un peu de temps à Zelensky pour progressivement temporiser et puis ensuite aménager un peu sa prise de parole. Mais on voit bien qu'il est embarrassé, il dit le monde entier ne sait pas. Bon, c'est sans doute la première, je dirais, gaffe ou la première erreur de communication importante du président Zelensky depuis le début de la guerre. Faut rappeler qu'il s'exprime quasiment tous les soirs depuis près de 9 mois. Donc il a le droit à l'erreur. Le problème c'est que là ça touche quand même un point extrêmement sensible qui est celui de l'Alliance Atlantique, d'un pays voisin, et que ça réveille toute cette histoire du missile au fond réveille le spectre d'un élargissement de la guerre. Donc ça a suscité une véritable inquiétude dans le monde entier, en Europe en particulier, et Zelensky semble-t-il a voulu peut-être mettre un peu de tension dans l'air pour rappeler aux Européens et aux Américains qu'il n'y avait pas que l'Ukraine qui était en danger, il y avait peut-être d'autres pays si Poutine voulait poursuivre son offensive.
Colonel, est-ce que le doute de Zelensky est encore permis ?
Non. En fait, dès le premier soir, à partir du moment où on a découvert qu'il s'agissait de débris de missiles S-300, dire la messe était à peu près dite. Il n'y avait pas d'autre solution que celle d'un missile antiaérien ukrainien, en réalité. Il a effectivement parlé trop vite et certainement emballé. C'est une erreur. Bon, effectivement, ça peut arriver. Et il aurait gagné, je pense, à rectifier tout de suite les choses et admettre son erreur. Après tout, c'est humain. Et parce que sinon, les effets seraient trop importants. C'est-à-dire ça. La prochaine fois qu'il accusera les Russes de quelque chose, on lui renverra immédiatement au visage cette erreur, quoi, cette négation. Donc, j'avoue que, autant on peut comprendre l'erreur, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il tarde autant.
Oui, pourquoi il n'y a pas de rétropédalage plus fort.
Plus fort.
Surtout quand on dit Zelensky agace-t-il ses alliés, alors on ne parle pas forcément des États-Unis ou de la France, où on comprend bien globalement ce qui s'est passé et qu'il faut un peu de temps pour faire marche arrière. En revanche, on a vu la réaction du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui s'est empressé de dire, lui qui veut maintenir des relations avec Moscou, qui s'est empressé de dire à quel point c'était irresponsable, à quel point il avait accusé à tort la Russie. Donc c'est là, c'est les maillons faibles, entre guillemets, de l'Alliance qui peuvent se servir de cette erreur de communication à l'avenir pour effectivement remettre en question la loyauté à cette alliance.
Et pendant ce temps-là, à Kherson, l'horreur après la libération, presque une semaine de liberté pour Kherson après 8 mois d'occupation russe, après la joie des premières heures, on a beaucoup vu ces images et on va les revoir, désormais un quotidien dur avec des privations en série. Surtout, certains habitants restent traumatisés, vous allez les entendre. Ils affirment avoir été torturés par l'armée de Poutine. On voit ça avec Julia Van Elst et Manuel Abraun.
Le centre de Kherson est noir de monde et les queues interminables. Pas de quoi décourager les habitants. Ils patientent pour recharger leur téléphone, récupérer des sacs de nourriture. Alors que les pharmacies sont fermées depuis des mois, Nina Lioutko est soulagée. Cette médecin a enfin mis la main sur des médicaments pour ses patients.
Là, j'ai des antibiotiques, du salbutamol contre l'asthme et aussi des médicaments contre l'hypertension artérielle. Donc tout ça, c'est surtout pour les personnes âgées.
Kherson et sa région, des territoires libérés où les habitants manquent de tout et où le moindre déplacement est devenu extrêmement dangereux. Les routes, les champs sont truffés de restes de projectiles et de mines prêtes à exploser. Environ 30 pyrotechniciens ont perdu la vie lors d'opérations de déminage. Des dizaines de civils ont explosé sur des mines. Des agriculteurs aussi ont été touchés sur leurs terres. Donc, je n'ai pas de chiffre exact, mais au moins 200 personnes sont mortes ou ont été blessées à cause des mines. À Kherson, comme dans le reste du pays, il faudra au moins 5 ans pour achever le déminage. Beaucoup plus pour guérir les traumatismes de certains Ukrainiens. Comme Vitaly Serdyuk, 65 ans. Dans son modeste appartement où l'électricité est coupée, il ressasse ce qu'il a vécu dans ce bâtiment du centre-ville de Kherson. Avant l'occupation, un simple poste de police. Mais pendant 9 mois, les Russes l'ont transformé en lieu de terreur, surnommé « le trou » par des Ukrainiens battus et torturés.
Dans une cellule prévue pour 4 personnes, on était 8 ou 9. On dormait par terre et on utilisait la bouteille d'eau comme oreiller. Il n'y avait pas de matelas, seulement une bouteille d'eau à mettre sous le cou. Et j'ai entendu des gens crier. La torture était constante. Tout le monde était torturé.
Lui aussi a subi des sévices. Les Russes voulaient des informations sur son fils, soldat dans l'armée ukrainienne.
Ils ont battu mon dos et mes jambes avec des matraques. Mes jambes saignaient. Je ne pouvais plus marcher. Mais je leur ai rien dit. Alors ils m'ont dit d'enlever mon pantalon. Je me souviens, c'était fin août. Ils ont baissé mon pantalon et ont placé 2 électrodes sur mes testicules. Puis ont utilisé une dynamo pour les activer. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête.
Son interrogatoire et la fouille de son téléphone n'ayant rien donné, Vitaly est finalement libéré. D'autres ne sont jamais sortis vivants de ces geôles. Selon les autorités locales, 43 personnes ont été torturées ici à Kherson. Mais les sévices avaient lieu partout dans la région.
Nous avons connaissance d'environ 4 chambres de torture dans les territoires libérés et nous les avons déjà inspectées. Nous travaillons maintenant à l'identification de victimes grâce à l'aide de témoins.
Des témoins qui pourraient aider les enquêteurs ukrainiens à retrouver les corps des détenus torturés.
Colonel Goya, on a ces témoignages terribles, on en a d'autres aujourd'hui. On pourrait faire une heure spéciale quasiment rien qu'avec les témoignages qui nous sont arrivés aujourd'hui, colonel. Ce travail-là de recueil des témoignages, il est très important parce que les Ukrainiens, ils ont toujours en tête d'amener les Russes ensuite vers un tribunal.
Oui, oui, tout à fait. Alors, le malheur en plus, c'est que on n'est pas surpris, malheureusement, et qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Donc, on est vraiment en face de quelque chose de systémique. Hein. C'est pas des cas isolés, des gens qui pètent des plombs. Non, on est sur quelque chose d'organisé, de systémique. Et oui, bien sûr qu'il faut, voilà, il faut documenter, il faut archiver, il faut enquêter pour faire payer. Ce sont des crimes. sont des crimes. Donc, ça doit aller, ça doit se terminer devant de la justice. Voilà, j'ajouterai juste un point. Alors qu'on est en train de parler éventuellement de négociations, de paix, voilà, on essaie de, voilà, une petite musique disant que voilà, ce serait pas mal si maintenant voilà, on commençait à négocier. Mettez-vous la place, voilà, des Ukrainiens. Vous êtes soldat ukrainien, vous êtes arrivé dans Kherson et vous tombez sur des tas de choses comme ça. Vous dites, tiens, c'est le moment de négocier avec ces gens-là. Non, le premier truc que vous dites, c'est non, il faut continuer et même accélérer. Il faut libérer, il faut aller plus loin, il faut libérer le plus vite possible les gens qui sont en train de subir ça actuellement. Et donc voilà, c'est même pas la peine de chercher à aller plus loin.
Et puis là, on parle de récits de torture pure et dure, mais dans le New York Times notamment, il y a le récit d'un Américain, un professeur d'anglais qui est resté cloîtré pendant 8 mois parce qu'il avait évidemment peur en fonction de sa nationalité. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il raconte. Il regardait par la fenêtre, il a changé d'endroit plusieurs fois et il raconte à quel point la situation se dégrade aussi. Les Russes arrivent et au début, ils ont leur uniforme, il y a un peu de discipline. Et puis petit à petit, ils voient qu'ils ne portent plus tout à fait leur uniforme, ils ne circulent plus dans les véhicules militaires, mais avec des voitures de luxe volées, et que petit à petit, ça se dégrade. Et on se demande là, mais où est la hiérarchie en fait? Où est la hiérarchie militaire? On a l'impression que ça s'est passé également dans la région de Kharkiv. C'est les mêmes récits qu'on a, que petit à petit, ils ont l'air, ces soldats, laissés aussi à eux-mêmes. On se demande où est cette hiérarchie? Est-ce qu'elle était déjà partie? En tous les cas, c'est à ce moment-là que la situation s'est dégradée au bout de plusieurs mois à Kherson.
On se rend compte que ça va laisser des traumatismes très lourds. C'est-à-dire que ça rappelle effectivement l'emploi. C'est pas la première fois qu'on a des récits d'emploi de ce qu'on appelle la Gégène, quoi. C'est-à-dire c'est de la torture des civils. Et ça, dans la question aussi de la réconciliation et du long terme, ça va laisser des traumatismes énormes dans la société ukrainienne et dans la capacité à pardonner, à surmonter à l'avenir cette guerre.
Vous parlez des négociations. Certains poussent à des négociations, notamment du côté américain.